Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une joie de nouveau de pouvoir partager un peu ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai eu un peu de mal à avoir un plan. Il y a pas mal de choses. Je prie vraiment que le Seigneur me conduise dans la façon de l'apporter. On peut prier ensemble encore. Alléluia, Papa. Alléluia, Papa. C'est une joie de se retrouver tous ensemble devant toi. C'est une joie de voir tous ces visages. C'est une joie de savoir que nous t'aimons, que nous t'appartenons et que nous nous appartenons les uns aux autres, que nous grandissons ensemble, que tu nous nourris, que tu nous formes, que tu nous façonnes, que tu nous fais grandir, que nous avons besoin les uns des autres, que tu nous utilises les uns et les autres pour grandir ensemble. Merci pour là où tu veux nous corriger. Merci pour la sagesse qui est en chacun, l'amour qui est en chacun, ta présence. Seigneur, merci parce que chacun est important, que tu l'utilises, tu lui as donné un don, une force, un talent, et que tu veux que cela grandisse, sorte, et explose. Dans l'autorité du nom de Jésus, j'appelle explosion des dons et des talents qui sont au milieu de nous et que tu n'as pas encore, qui n'ont pas encore tous été utilisés. Dans l'autorité du nom de Jésus, je le dis, libération maintenant. Merci parce que tu es un merveilleux jardinier comme Christophe. Il y a plein de fruits dans ton jardin et tu veux nous nourrir de tes fruits. Comme Christophe nous nourrit de ses fruits et de ses légumes, Seigneur, en nous disant que tu veux nous nourrir par les fruits et les légumes que tu as déposés dans chacune de nos vies. Et nous en avons besoin de tous afin d'une nourriture équilibrée. Nous te remercions, Papa, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je te demande grâce, Seigneur, dans ce que j'ai à partager. J'ai un sujet qui va peut-être être un tout petit peu bizarre au début, inattendu, puis je crois qu'il y a des choses que Dieu veut nous dire au travers de ce sujet. J'aimerais que vous preniez dans Hébreux 13, 2. Hébreux 13, 2. Ça commence, on peut déjà prendre verset 1 parce que ça ne nous fera pas de mal de le lire. Persévérez dans l'amour fraternel. Verset 2. N'oubliez pas. Ah, quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier à votre avis? N'oubliez pas l'hospitalité. Alors ce matin, je crois que je suis là pour vous dire n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Qui c'est qui a déjà logé des anges parmi nous? Ah ben peut-être quelqu'un a déjà logé un ange, puisqu'il y en a qui l'ont logé sans le savoir. Hein, Vito et Jocelyne, ben la prochaine fois nous inviter avec, hein, parce qu'on aimerait bien les voir. C'est vrai? Amen. En tout cas, le Seigneur dit, parce que n'oubliez pas, quand la parole dit quelque chose, c'est le Seigneur qui nous parle. Hein. Et il parle à chacun de nos cœurs, il dit, écoute mon fils, ma fille, n'oublie pas. N'oublie pas l'hospitalité. Et en même temps, je te tends tout de suite une carotte. Parce que tu sais que si tu vas loger, tu ouvres ta porte, tu vas recevoir quelqu'un dans ta maison, si ça se trouve, ça peut être un ange. Ça veut dire que quelque part, le Seigneur, il dit, il y a du piquant derrière, il y a du sel, il y a quelque chose d'intéressant, ça vaut le coup que tu le fasses. Sans oublier, sans compter qu'il y a plein de choses derrière, mais au moins rien que ça, ça vaudrait déjà la peine. On peut en prendre aussi dans Romains 12, 13. Romains 12, 13. Alors quand j'avais ce verset, il y avait tout le passage qui me paraissait comme une ligne de conduite pour notre vie. Et je me suis dit, je me permets de vous le lire rapidement. Aimez sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, tiens encore, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de soins les uns envers les autres, de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents dans votre esprit. Servez le Seigneur. Soyez plein de joie et réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patiente quand il y a de la souffrance et de la peine et de l'affliction. Persévérez, continuez à prier, persévérez dans la prière. Prenez soin des besoins des saints, pourvoyez à leurs besoins et exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Il y a toute une ligne de conduite, on pourrait prendre chacun et se dire « Seigneur, c'est vraiment des conseils pour ma vie que j'ai besoin. » J'ai gardé un de ceux qui paraît le plus anodin, exercer l'hospitalité. Amen. Alors ça veut dire que quelque part le Seigneur nous dit, exerce l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité? Alors pour le prendre, pour expliquer un tout petit peu, j'aimerais bien prendre des exemples. Dans Genèse 18, c'est un passage que j'avais déjà une fois partagé. Il est connu, c'est « L'Éternel lui a apparu à Abraham parmi les chênes de Mamré. » Il était encore assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, Il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Permets que j'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous l'arbre. Vous allez prendre du pain et fortifier votre cœur et ensuite vous pourrez continuer la route. » Donc voilà un premier passage sur l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité ? Il y a des étrangers de passage et Abraham, il dit, il est hors de question que ces personnes passent sans s'arrêter dans ma maison. Alors il dit, il n'est pas en train de se dire de les voir à part la fenêtre. Il dit, oh, j'espère qu'ils ne vont pas toquer à ma porte. Parce que dans le, ça, je vous rappelle qu'Abraham, c'est presque encore le début de l'histoire du monde. Hein. C'est avant Israël, il y a des millénaires en arrière. Les gens voyageaient et c'était la coutume de, que quand on voyage, on savait qu'on allait pouvoir s'arrêter chez des gens qui nous logeraient. C'était quelque chose, ça faisait partie de la vie normale. Il était hors de question de laisser passer des gens et sans qu'ils s'arrêtent. Il fallait qu'on puisse les recevoir. Et on savait que nous, quand on voyagerait, on serait aussi reçus chez d'autres. Et Abraham, il dit, mais il sort de sa maison, il court, il va les arrêter. Et presque de force, il dit, mais vous n'allez pas vous continuer votre chemin sans s'arrêter chez moi. Je veux être béni par votre présence chez moi et par le fait que j'exerce l'hospitalité. Donc, vous arrêtez chez moi, quoi qu'il arrive, et je vous servirai, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Arrêtez-vous chez moi, je vous en supplie. Voilà comment Abraham concevait l'hospitalité. Alors bien sûr, on peut se dire que quelque part son cœur battait, qu'il avait déjà tout de suite pressenti que Dieu était là derrière, mais c'était de toute façon sa nature et son cœur, et c'était déjà la nature de tous les gens qui vivaient à ce moment-là. La preuve, on le voit dans Genèse 19. Alors Abraham a eu toute une discussion avec Dieu. Il y a des anges qui sont envoyés pour détruire la ville de Sodome et Gomorre. Et alors Abraham a pu demander qu'il y ait un juste qui soit, au moins si un juste soit sauvé. Alors il y a des anges qui sont envoyés vers Lot pour le sauver. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna à la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs. Alors là, je ne sais pas si lui savait que c'était des anges. Hein. Il va vers eux, il les cherche. Il attend de nouveau pas dans sa maison. Il va les chercher, il les prend chez lui et même il se prosterne à terre. Il dit, voici seigneur, entrez je vous prie dans ma maison. Passez la nuit. Vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, écoute, l'autre, on doit passer la route la nuit dans la rue. T'inquiète pas, on va pas venir te déranger. Alors qu'ils étaient envoyés chez lui, quoi. Hein. Ils font semblant. Non, l'autre, t'inquiète pas. Non, reste tranquille. Te dérange surtout pas pour nous. Et l'autre, mais l'autre les pressa. Non, il est hors de question que vous passiez votre chemin. Je veux avoir la bénédiction parce que j'ai exercé l'hospitalité. Vous soyez rentrés dans ma maison. Venez. L'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Alors il leur partagea du pain un peu, avec un bout de fromage et un petit peu un verre d'eau. Non ? Il leur donna un festin. Vous vous rappelez ce que le Seigneur Jésus a déjà dit ? Quand vous faites un repas, n'invite pas seulement tes amis. Va chercher ceux qui sont dans le bord des routes, qui ne sont pas habitués à être servis et reçus. Et prépare-leur un festin. Et cela t'aura une récompense. Et ils mangèrent. Et alors je me permets de lire la suite. J'hésitais parce que c'est un passage dur et puis j'ai à cœur de le lire. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était là. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir, on veut les connaître. » Ça veut dire qu'il veut y avoir abus sexuel. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Je vous en supplie, ne faites pas ce mal. » Et voilà l'horreur, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je les amènerai dehors, vous leur ferez ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes. Parce qu'ils sont venus chez moi, à l'ombre de mon toit. Et on peut lire encore dans Juges 19, un peu la même histoire. On va prendre au verset 19. C'est un Lévite qui voyage. Il voyage avec sa concubine, ils ne sont pas mariés a priori. Et il veut passer à Jérusalem. Et il s'arrêta sur la place d'une ville qui s'appelait Gibéa, verset 19. Il n'y eut personne qui le reçoive dans sa maison. Déjà quelque chose de complètement anormal. Personne pour ouvrir sa maison. Voici des voyageurs qui passent et personne n'ouvre sa maison. J'ai bien aimé tout à l'heure parce qu'on priait avec Shafika et elle priait, Seigneur, que j'ouvre aussi ma maison, et pas seulement ma maison, mais que j'ouvre aussi mon cœur et la porte de mon cœur. Et eux, ils n'ont pas ouvert la maison, ils n'ont pas ouvert la porte de leur cœur. Il n'y a personne qu'ils reçoivent dans leur maison pour qu'ils y passent la nuit. Et voici, c'est un vieillard qui revient le soir du travail toute la journée. C'est un vieillard donc fatigué, il a travaillé toute la journée. Et il ouvre encore lui. Il leva les yeux et vit le voyageur. Il dit, où tu vas? D'où tu viens? Eh bien écoute, nous allons à Bethléem de Juda jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Mais il n'y a personne qui reçoive dans sa maison. Pourtant, on a tout ce qu'il faut pour nos ânes. On a la paille, on a le fourrage, on a du pain, on a du vin. Franchement, on pourrait lécher quelqu'un, mais on n'a pas besoin que les personnes dépensent de l'argent pour nous. On a tout ce qu'il faut, juste nous loger. Le vieillard lui dit, verset 20, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Je te prends en charge complètement, je m'occuperai de toi. Tu ne vas pas laisser la passer la nuit dehors, il est hors de question. » Il les fit entrer dans sa maison, donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, ils mangèrent et burent. Et encore une fois, pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi afin qu'on le connaisse. » Le maître de la maison dit, « Non, ne faites pas ça, je vous en supplie, ne faites pas ce mal. Cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette horreur. J'ai une fille vierge. Cet homme a une femme, je vous les amènerai dehors. Vous ferez ce qu'il vous plaira. » Quelle horreur. Quelle horreur. À cause de la notion de l'hospitalité, l'homme qui est entré dans leur maison, un parfait étranger, un parfait inconnu, aucun devoir envers eux, aucune attente particulière n'est de reposer sur eux, il n'avait aucune responsabilité à part l'hospitalité. Et à cause de l'hospitalité, ces gens, on les reçoit dans leur maison, ils deviennent les hôtes d'honneur, des hôtes royaux, placés en valeur au-delà des filles de la maison. Et ces gens, pour honorer l'hôte qui était entré dans leur maison, ils étaient prêts à sacrifier leurs filles. Et là, on voit qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Les filles sacrifiées à cause de l'hospitalité. Parce que les gens qui étaient entrés dans la maison devenaient les gens dont on avait la responsabilité totale et entière. Des hommes les êtres les plus importants. On devait s'en occuper au maximum et les placer au-delà des enfants même de la maison. Sinon, le déshonneur aurait été total. Est-ce que je peux juste continuer? Je continuerai sur ce sujet un peu plus tard. Je voudrais juste vous partager qu'il y a quelqu'un qui a une maison particulière. Hein? Il y a un papa qui a une maison magnifique. Je voudrais vous parler de la maison du Père. Je voudrais vous parler de la maison de notre papa. Dieu a une maison. Vous savez, vous rappelez le fils prodigue, quand il a quitté la maison, qu'est-ce qu'il s'est dit un jour en lui-même? Moi, je suis là, je suis dans la boue, je suis crotté jusqu'au cou, ça pue le cochon. Si vous avez été jusqu'à Décathlon, vous avez déjà senti que de loin l'odeur du cochon. Hein. Alors, imaginez quand vous êtes juste à côté. Il n'a rien à manger, il doit manger la boue, ce qu'il y a dans la boue pour les cochons. Et il se dit, mais je suis fou, moi, qu'est-ce que je fais là? Dans la maison de mon père, il y a du pain et du vin en abondance. Dans la maison de mon père. La maison de mon père. Psaume 23, vous le connaissez à la fin. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 36, verset 9. Psaume 36, verset 9, on peut le prendre. Psaume 36, verset 9. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Tu les abreuves au torrent de tes délices. Auprès de toi est la source de la vie. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance. Dans la maison dans la maison du Père, il y a une abondance et on se rassasie. Chapitre 52, verset 10. Moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. On est planté dans la maison de Dieu comme des oliviers verdoyants. Psaume 65, 5, on peut le lire. Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence, papa, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. Il y a une idée de rassasiement, rassasié de l'abondance, rassasié du bonheur de la maison du Père. Psaume 84, verset 5, on peut le prendre. Verset 3, verset 2. Que tes maisons sont merveilleuses, Éternel des armées. Qu'elles peuvent, comme on peut les aimer, mon âme soupire et languit après juste le seuil de la maison du Seigneur, après l'entrée, après le parvis. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le petit oiseau, le passereau même, trouve une petite maison. L'hirondelle a un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, heureux ceux qui habitent ta maison et peuvent te célébrer. Encore heureux ceux qui habitent ta maison. Verset 11. Je préfère le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Tous ces passages de la maison du Père nous décrivent une maison magnifique. Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et c'était pendant la louange dimanche dernier que d'un coup, c'est comme si le Seigneur me disait, je vais te faire visiter ma maison. Je voudrais te faire visiter. Alors bien sûr, on vient d'acheter, on a une maison. Alors nous, qu'est-ce qui se passe quand on est tout heureux quand il y a quelqu'un qui vient? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On lui fait tout visiter. On lui fait visiter, on lui montre notre belle cuisine, notre petit salon, il y a une cheminée. On lui fait voir les chambres en haut, on a le jardin. Il y a encore du travail, mais bon, il est beau déjà. Voilà, on fait visiter notre maison. Et c'est comme si papa il dit, viens dans ma maison, je voudrais te faire visiter chez moi. Je voudrais te faire visiter ma maison. Je voudrais que tu viennes visiter mon merveilleux séjour, mon salon. Je voudrais que tu viennes visiter ma cuisine, que tu viennes visiter la salle de mon trône, que tu viennes visiter. Il y a beaucoup de demeures dans ma maison. Il y a beaucoup de places, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de salles. Il y a des salles spéciales, il y a plein de salles. Tu n'auras pas toute l'éternité pour découvrir tous les recoins de ma maison. Mais viens, je voudrais faire visiter ma maison avec toi. Est-ce que tu veux venir? Et puis tu rentres dans le salon, et là, il y a papa qui est sur le canapé, il y a l'esprit qui est peut-être qui vient juste de rentrer parce qu'il travaille au jardin et il a entendu que tu venais. Il y a le fils qui travaille à l'ourdi, il avait un travail à faire, et puis tous ils sont là, et tu arrives, et ils se réjouissent parce que toi tu y arrives. Tu rentres dans la maison, et là ils s'arrêtent, et ils prennent du temps avec toi, et ils discutent. Et là, tu as un cœur à cœur avec la famille divine, avec ta famille. Amen. Ça, c'est la maison de papa. Tu rentres et tu es en communion avec eux et ils ont du temps à te donner. Ils passent du temps avec toi. Alléluia. Je ressentais dans la louange aussi la semaine dernière, comme si le Seigneur me disait, la louange et l'adoration, c'est l'atmosphère de ma maison. Pourquoi le Seigneur aime tellement la louange et l'adoration? Tout simplement, mais c'est comme ça que ça se passe dans sa maison. Quand on rentre dans la louange et l'adoration, on ne fait pas un acte simple, séparé, un acte solitaire. On rentre dans l'atmosphère de la maison. La maison, c'est ainsi, c'est la louange et l'adoration. Et simplement, ça s'accroît, ça grandit par la nôtre. On l'apporte et elle se mélange à celle de la maison. Il y a justice, sainteté dans la maison. C'est une atmosphère de joie et de paix, une atmosphère de rire et de chant, une atmosphère d'abondance. Tu viens, tu te rassasies, tu es rassasié dans la maison. Cette maison, c'est ta maison. C'est ta maison. La maison du Père, c'est ta maison. Et alors, je voudrais relier à ce que je partageais tout à l'heure. Pourquoi l'hospitalité de Dieu, pourquoi l'hospitalité a tant d'importance aux yeux de Dieu? Pourquoi le Seigneur dit, n'oublie pas l'hospitalité? Exerce l'hospitalité. Parce que Dieu, l'hospitalité, c'était ce qui était dans le cœur de Dieu au commencement et qui a fait que tout s'est mis en route. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité? L'hospitalité, c'est aimer l'étranger. Phila, xénos, aimer l'étranger. L'étranger, il passe dans la route, sur la rue, et le maître de maison, il sort, il court, presque il se prosterne, il le prend par la main, il lui dit, ne passe pas ta route, je t'en supplie, mais viens, et rentre dans ma maison. Viens, rentre dans ma maison. Toi l'étranger, toi qui es à l'extérieur, toi qui n'as pas de maison, toi qui n'as pas de chez toi, toi qui es perdu, toi qui es seul. Je t'en supplie, viens. Il y a dans ma maison du pain et du vin. Il y a du couchage pour toi, il y a de la fête et des rires. Viens dans ma maison.
C'était le cœur de Dieu dès le départ, d'ouvrir sa maison à des parfaits étrangers. C'est nous les étrangers, nous passions sur la route et on était perdus. On était solitaires, on était couchés, blessés sur le chemin. Et le Père est sorti de la maison. Et il a vu, je veux ouvrir ma porte à l'étranger. Et il est venu me chercher, il est venu nous chercher afin de nous faire entrer dans la maison. Et il nous a servi à manger. Il nous a nourri du pain. Il nous a donné à boire. Il nous a donné du vin. Il nous a donné son amour et son affection. Et on est devenus les fils de la maison. On est devenus, qu'est-ce que dit Éphésiens 2, 19 ? Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous n'êtes plus des gens sans cité et sans maison. Vous n'êtes plus des gens perdus tout seuls. Vous êtes des gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Vous êtes devenus partie intégrante de la maison. Vous êtes devenus les oliviers verdoyants dans la maison. Vous êtes rassasiés jour et nuit de la maison. Vous êtes partie intégrante de la maison. La parole de Dieu dit, la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. La maison du Père, c'est vous. Non seulement vous êtes fait rentrer, mais vous êtes devenu la maison même. Vous êtes devenu la maison. Ce qui fait que quand il y a des gens qui passent et qui vous côtoient et qui vous touchent, ils touchent la maison du Père. C'est vous qui êtes cette partie maintenant et qui sortez, qui cherchez, qui faites rentrer dans la maison parce que vous êtes la maison. Ceux qui entrent en contact avec vous rentrent en contact avec la maison du Père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui en voulaient à votre peau. Il y en a qui vous haïssaient, qui ont dit « Faites sortir celui-là, on le veut pour nous ». Il y en a qui ont voulu votre peau. Il y en a qui ont voulu votre destruction dès le départ. Dès le départ, vous étiez marqués pour la destruction. Et qu'est-ce qu'a fait le Père? Il a dit non. Ils sont venus sur mon toit. Ils sont devenus les miens. Vous n'y toucherez pas à ceux-là, ils sont à moi. N'y touchez pas, gare à celui qui touche à la prunelle de mon œil. Regardez, j'ai un fils. J'ai le fils bien-aimé qui fait la joie de mon cœur depuis l'éternité. Prenez-le. Je vous le donne. Je vous le donne en pâture. Faites ce que vous voulez de mon fils. Mais ne touchez pas à ceux-là. Ils sont venus dans ma maison. Ils sont venus sous mon toit, à l'ombre de mon toit. Ils ont trouvé refuge chez moi. Vous n'y toucherez pas. Je les considère désormais comme des hôtes royaux. Ce sont des fils de la maison. Ils ont été plantés dans ma maison. Gare à toi si tu oses y toucher. Mais je te donne mon fils, prends-le. Fais ce que tu veux avec mon fils. Fais ce que tu veux avec mon fils, je te le donne. Et on a marché dessus. On a abusé de lui. On l'a détruit. Il a été livré par le Père. Pourquoi ? Parce que c'était toi qui comptais, toi l'étranger, toi le solitaire, toi ce qui ne comptait pour personne. Le Père t'a vu passer sur la route. Il est sorti de sa maison en courant. Il t'a cherché, il t'a pris par le bras, il t'a dit « S'il te plaît, je t'en supplie, ne passe pas ton chemin, mais viens et rentre dans ma maison. » Et quand tu es rentré dans la maison, il t'a mis sur toi des vêtements royaux, il t'a mis une alliance à son doigt, une couronne sur ta tête. Et il te traite désormais en fils royal, en fils de la maison. Quand tu viens, tu es chez toi. C'est chez toi, c'est ta maison. C'est la maison de ton Dieu, c'est la maison de ton Père. Tu es chez toi désormais. Profite de la maison. Profite de la maison. Viens, prends du temps dans la maison. Prends du temps avec la famille royale. Désormais, c'est ta famille. Tu es devenu participant de la famille. On l'a déjà souvent dit, mais je crois qu'encore Dieu veut le faire descendre dans notre cœur. Tu fais partie de cette famille désormais. Tu es un membre à part entière de cette famille. Tu es un des fils de la maison. Ceux qui te côtoient, côtoient un fils de Dieu. Ceux qui te côtoient, côtoient une fille du roi, une fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu avec un grand F. Fils de Dieu avec un grand F. Fille de Dieu avec un grand F. Tu es le même comme Jésus. Et tu n'es pas un petit fils dans la maison. Tu n'es pas petit. Tu es fils à part entière comme Jésus. Tu as été adopté, tu as été engendré. Le Père t'a donné naissance. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, quand on priait, le Seigneur m'a encore montré quelque chose. Quand tu viens dans la maison, Tu viens, tu es comment ? Tu es nu. Et le Seigneur te revêt. Il te revêt de justice, il te revêt de sainteté, il te revêt de gloire, de dignité, de valeur. C'est pour ça que quand tu te regardes avec un point de vue humain et tu vois ta nudité, tu peux même voir ta nullité et tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Tu as raison. Dans notre chair, dans notre nature humaine, nous devons faire le constat que nous sommes nus, que nous sommes pauvres, que nous sommes même nuls. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Quelle est notre force ? Quelle est notre puissance ? Elle ne va pas au-delà du maître autour de nous. Mais la différence, c'est que nous sommes devenus participants d'une nouvelle maison, d'une nouvelle race, d'un nouveau royaume. Nous avons été revêtus de nouvelles armes, d'une nouvelle nature, d'un nouveau caractère, d'une nouvelle personnalité, de tout nouveau. Et dans cette nature-là, nous sommes quelqu'un de royal et de grand, quelqu'un qui a de l'honneur et de la valeur, quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qui a du mérite. Et ça ne vient pas de nous, c'est simplement parce que nous sommes dans la maison. Et dans la maison, nous avons tout. Et quel est le scandale ? Le scandale, c'est que nous venons dans cette merveilleuse maison, dans cette maison, et que nous venons avec notre propre justice. Nous venons avec nos efforts. Nous avons tout à portée de main. Tout est à nous. Tout est déjà sur nous. Et nous, on vient et on dit, je vais essayer d'être juste. Je vais essayer d'apporter quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose pour être à la hauteur. Et c'est un dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse dans ma maison ? Ça a peut-être un peu de valeur du point de vue humain. Mais dans ma maison, ça ne sert à pas grand-chose, pour pas dire à rien. Et c'est un scandale quand on vient avec nos efforts, nos propres justices, et qu'on veut essayer de la porter sur l'autel, et que c'est on dit, mais ça n'a pas de place dans ma maison. Ça ne peut pas rentrer dans ma maison. Qu'est-ce qui convient à ma maison ? Ce n'est que la sainteté. La parole dit, la sainteté convient à ma maison. Tout ce qui n'a pas la marque de ma sainteté, de ma nature et de ma justice, ça ne peut pas rentrer. Ça ne rentrera pas. Quand tu viens avec ta propre justice, qu'est-ce qui se passe ? Tu te heurtes à la porte jusqu'à ce que tu acceptes de la laisser dehors parce que ça ne peut pas rentrer, ça ne passe pas le filtre. Tu vas être obligé de t'humilier, de déposer tes efforts, de déposer ta propre justice, ta propre conception des choses de Dieu et de ta vie et de ta marche et de le déposer, de le laisser. De déposer ta propre vue sur toi-même, comment tu te considères, comment tu te vois, tu es obligé de le déposer. Ton péché, tes échecs et ta souillure, tu dois le déposer aussi. Tout ce qui porte notre nature, la marque de notre nature humaine, doit être déposé. J'entre et je me suis revêtu de justice, de pardon, de grâce, de sainteté, d'honneur, de valeur, de royauté, de gloire, parce que je dois porter la marque de la maison. Je porte la signature du roi dans ma vie, parce que je suis un olivier verdoyant dans la maison de mon Dieu. Amen. C'est ainsi qu'est notre vie et notre marche dans la maison du roi. Je terminerai avec 1 Pierre 4, 9. Par extension, on va dire. Il y a eu quelque chose de vaste. J'exerce l'hospitalité parce que Dieu a exercé l'hospitalité envers son peuple. On est appelé à l'exercer vers l'étranger parce qu'il en a besoin. Et par extension, si à ceux que je fais l'hospitalité à ceux qui sont loin, je fais l'hospitalité à ceux qui sont proches. Et la parole de Dieu dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. On a besoin d'être en contact les uns avec les autres. Et on doit se demander pardon parce qu'on n'y arrive pas. On doit le reconnaître. On est tellement pris dans nos trucs, dans nos affaires. On est un peu chacun dans notre maison. Et le Seigneur nous dit, mais accueillez-vous les uns les autres. Faites-vous hospitalité les uns envers les autres. Quand tu vois qu'il passe devant ta maison, va le chercher. Attire-le jusque dans ta maison. Parce qu'on a du mal à aller les uns vers les autres. Alors va le chercher. Attire-le dans ta maison et prends soin de lui. Prépare-lui un festin. Amen. Va faire ce que la plupart du temps ne vont pas vers quelqu'un, bien sûr. Amen. Alléluia. Je crois que c'est ce que le Seigneur voudrait vraiment nous dire. Alléluia, papa. Alléluia. Alléluia.
En termes d'hospitalité, pour confirmer ce que Franck vient de nous donner, étant d'origine orientale, il faut savoir qu'Abraham vivait sous des tentes et avait des tapis de grande valeur. D'où vient la tradition de laver les pieds de ses hôtes, parce qu'ils traversent le désert et ont les pieds pleins de terre. Et qu'est-ce qui se passe si l'hôte doit s'installer, si on lui donne un laps de temps, un temps de repos, un temps d'accueil, on lui exprime cela en lui lavant les pieds. Et ça se retrouve dans la tradition juive. C'est un acte d'accueil qui peut être peut-être scandaleux pour une mentalité européenne. Et le deuxième acte, c'est le cadeau des trois verres de thé. Les trois verres de thé ont toute une signification. Le premier veut dire « je t'accueille ». Le deuxième veut dire « je te reçois ». Le troisième veut dire « tu deviens mon ami ». Ce qui peut expliquer que refuser un des trois verres peut représenter un affront. Mais entre les trois verres, ils ne sont pas servis consécutivement. Il y a tout un rituel de la préparation qui se fait même sous le regard de l'hôte. Il y a cette façon de verser avec la théière. J'avais fait une démonstration une fois à certains d'entre vous, n'est-ce pas Geneviève, tu t'en souviens? Et il y a cette démonstration où on fait le fait de verser. Et on verse avec la verseuse, la théière, on s'approche et puis on s'éloigne. Et puis on se rapproche de nouveau, puis on s'éloigne un peu plus, peut-être un peu moins. On ne verse, on ne met jamais de sucre dans le thé. Un thé arabe, proprement dit, on ne met jamais du sucre et puis qu'on touille dedans. C'est un sacrilège, c'est comme pour les Italiens prendre des spaghettis et les couper. C'est le même sacrilège. Mais on verse le thé sur le sucre. Et après, on prend la partie qui est sucrée et on la verse de nouveau sur l'autre partie qui ne l'est pas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sucre se dissout, hein, c'est le mot, de lui-même, comme par enchantement. C'est ce que l'on appelle préparer. En arabe, on le dit « masakar mukafkaf », qui veut dire un sucré moussé. C'est le propre du thé arabe. Et entre ces trois verres, il y a toute une conversation qui se, comment dire, si Franck vient de parler de murmure, hein, si je cesse de murmurer les plaintes de ma chair, qui est peut-être embêtée, qui est peut-être dérangée, sûrement dérangée dans mon programme, je cède ce murmure. Il se passe une chose, c'est que l'Éternel, mon Dieu, va murmurer à mon oreille et aux oreilles de mon cœur qu'il me reçoit et qu'il m'aime. Il m'accueille, il me reçoit et il devient mon ami. Donc voilà, je voulais partager ça.
Merci Shafika. J'aurais aimé proposer quelque chose. Simplement, j'aurais bien voulu qu'on puisse s'accueillir en famille les uns et les autres. Qu'il y ait une famille qui se réunisse et qui aille vers une autre famille et qu'on puisse intégrer un ou deux célibataires. Est-ce que vous êtes prêts à le faire là maintenant? Et qu'on puisse simplement prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. S'accueillir, se bénir, se dire du bien au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes partant? Donc si simplement on se rassemble, une famille va recevoir une autre famille, même faire éventuellement un plan pour se retrouver après, plus tard, je ne sais pas. C'est à vous de voir, hein, qu'est-ce que le Seigneur mettra sur votre cœur. Puis le faites selon ce que vous avez envie de faire, hein. Personne ne se sent forcé de quoi que ce soit. Simplement, j'ai un verset qui m'a frappé encore, que j'aimerais juste vous partager avant, et que j'avais jamais lu. Je crois que c'est Luc 9, dans Luc 9, il y a Jésus qui envoie des messagers. Et il dit, et ces messagers étaient appelés à préparer un logement pour quand Jésus venait. Et simplement, j'ai comme l'impression que Jésus, il dit, préparez-moi le logement. Et j'ai l'impression que le Seigneur nous dit, préparez-moi des logements. Préparez des logements. Je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être qu'il y a un appel de Dieu, mais il y a quelque part le Seigneur qui dit, préparez des logements parce que je viens. Il y avait toute une logistique que je n'ai jamais comprise, mais le Seigneur, simplement, quand il voyageait de ville en ville, on dirait qu'il envoyait des messagers avant pour préparer le futur logement quand il arriverait dans une nouvelle ville. Et d'ailleurs, même pour la Pâque, on a vu qu'il a dit, vous allez chez tel et tel, et vous allez lui dire que j'ai besoin de telle chambre parce que je vais venir manger la Pâque ici. Ça fait, mais en fait, ce n'était pas un acte isolé, j'ai l'impression que ça faisait partie de toute une logistique. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il y a cet appel dans le cœur de Dieu. Je ne sais pas ce que ça signifie que chacun le reçoive comme Dieu le veut, mais c'est ce verset qui résonne dans mon cœur. Amen. Donc maintenant, c'est simplement, comme le Seigneur nous donne, on va prier les uns avec les autres, peut-être donc entre deux familles, on inclut un ou deux célibataires, selon le temps qui vous reste, et qu'on prie ensemble. Donc simplement faites-le maintenant selon ce que Dieu vous dit. Je vais commencer à prier pendant qu'on le fait. Alléluia, Seigneur, je te loue. Je te loue, Papa, parce qu'il y a cette hospitalité dans ton cœur qui a fait que tu as dit que tu allais ouvrir ta maison pour les étrangers et qu'ils ne resteraient plus étrangers, mais deviendraient gens de la maison de Dieu. Et Seigneur, je mets ce mot sur chacune de nos vies, gens de la maison de Dieu, fils de la maison du Père, hôte royal. C'est ainsi que tu nous vois et que tu nous considères. Et Seigneur, nous voulons apprendre à nous voir personnellement de cette façon. Je suis quelqu'un de la maison de Dieu. Je suis un homme, une femme de la maison de Dieu. Un enfant, un jeune, un ado, une adote de la maison de Dieu. Je suis fils, fille royale, hôte royale, quelqu'un de bienvenu. Les choses s'arrêtent quand dans la maison je viens, parce que le Père a un temps de discussion et de partage avec moi. Alléluia, Seigneur, nous voulons vraiment bénir ton nom. Et Seigneur, nous voulons ouvrir nos portes et ouvrir nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs envers toi. Nous ouvrons nos cœurs envers nos frères et nos sœurs. Et nous ouvrons nos cœurs envers les autres. Nos cœurs et nos portes. Nous voulons apprendre à ouvrir. Apprendre à aller et à chercher. Seigneur, que cela commence à descendre profondément dans nos cœurs. Sortir et aller et chercher. Au nom de Jésus. Amen.